substantielle, ou essentielle, radicale. La différence spécifique, vous ne cherchez pas du tout l'extension, vous cherchez la signification la plus profonde et la plus déterminante. C'est pour ça qu'on dira que la différence spécifique se prend du côté de la forme. C'est l'intelligence, dans ce cas-là, de qualitatif, qui cherche la différence spécifique. C'est l'intelligence qui veut saisir ce qu'il y a de plus qualitatif dans la réalité. L'espèce, c'est cela. L'intelligence cherche à définir. On aime de définir. Parce que quand on définit, on croit qu'on connaît. On ne connaît pas du tout quand on définit. On classe. Des esprits qui viennent de classer. Peu importe ce qu'on fait pour ma part. Le tout, c'est que ce soit classé. Vous définissez. Et quand vous définissez l'homme, animal raisonnable, ce n'est pas une définition philosophique, c'est une définition logique. Ce n'est pas une définition philosophique. Non, non, non. Vous croyez tous que la définition philosophique de l'homme, c'est animal raisonnable. J'aurais dû poser la question avant. J'ai écrit sur un petit papier, quelle est la définition philosophique de l'homme? Je suis sûr que la plupart auraient dit, la définition philosophique de l'homme, c'est animal raisonnable. Eh bien non, ce n'est pas une définition philosophique, c'est une définition logique. Et depuis Occam, c'est devenu une définition philosophique. La définition philosophique de l'homme, c'est quoi? C'est-à-dire, quelle est la nature de l'homme? C'est définir que l'homme, c'est un animal. Oui, un animal sensible. Avec l'esprit. Et c'est un animal avec la main. C'est ce que donne la définition d'Aristote. C'est une définition philosophique qui n'est plus une définition. Je ne peux pas définir l'homme philosophiquement parlant. La connaissance philosophique va au-delà de la définition. Parce que la définition, c'est logique. Donc ce n'est pas philosophique. Je me sers de la définition pour aller plus loin. Je ne peux pas me contenter de la définition. Ceux qui se contentent de la définition ne sont pas dans la philosophie. Celles-ci sont sans compte. Très bien d'avoir des définitions. Gardez les dictionnaires. Ils essaient de définir. Ce n'est pas philosophique. C'est un aspect très utilitaire. Quand vous définissez, vous croyez que vous traversez la réalité. Mais non, vous l'avez classée. Classer, c'est très bien, c'est très bien. Pour une pratique, c'est très important. Il faut classer les choses. Donc, l'espèce, c'est ce qui est défini. L'intelligence, au point de vue logique, aime de définir. Nous aimons définir. Et nous croyons que nous savons quand nous définissons. Uniquement une exigence logique. Le propre, parce que nous n'avons pas la différence spécifique, nous nous approchons le plus possible de la différence spécifique par le propre. Le propre caractérise tel animal. Vous allez caractériser le chien. Aboyer permet de prévenir. préciser un des caractères du chien. Donc c'est le propre. Parce que je n'ai pas la connaissance de la différence spécifique, je me rabats sur le propre. Et donc saisir la caractéristique d'une réalité. Et ceux qui font des caricatures saisissent tout de suite ce que c'est le propre. Théologien. Alors, le père Garrigou-Lagrange demande à un père dominicain d'aller au-devant de sa sœur à la gare à Rome. Alors, le père Garrigou-Lagrange ne la connaît pas. Comment vous pourrez la connaître? Oh, vous la reconnaîtrez tout de suite. Elle est très intelligente. C'est merveilleux, ça. Elle est très intelligente. Très bien. De la foule, vous voyez les gens intelligents. Il avait dit, elle a un grand nez. On peut être très intelligent et avoir un grand nez. C'est pas exclusif. Mais le grand nez, la propriété, ça se voit. Une caractéristique d'un animal, ça se voit. La caractéristique d'un homme, ça se voit. Et la propriété. Voyons et que nous pouvons mesurer. Il a un nez d'une dimension. On n'a jamais vu un aussi grand nez. Ça peut arriver. Et quand vous voyez que ça pousse chez l'enfant, vous dites pourvu que ça ne va pas pousser trop. Alors la longueur. De critique. Pourquoi ces cinq modalités? Alors, je ne veux pas trop le développer. Hein. Parce que ça, c'est de la critique, c'est plus de la logique. Pourquoi ces cinq modalités? Posez-vous au moins la question. Constatez que ces cinq modalités, depuis Aristote, même Platon les avait déjà données. D'une certaine manière, Platon parle du genre, de la différence spécifique, du propre, de l'accident. Mais c'est Aristote qui les a noués. Et qui les a noués autour de l'universel. Pourquoi ces cinq prédicats? Il me semble. Il dit ça en marchant sur la pointe des pieds, hein. Ce qui est accidentel. Donc, il me semble que ces cinq accidents, c'est ce qui caractérise une intelligence liée aux cinq sens. Notre intelligence est une intelligence incarnée, c'est-à-dire une intelligence qui se sert des sens. Et ça, c'est très intéressant alors. Puisque c'est toujours le fruit d'une abstraction. Alors, toute abstraction est à partir d'une image. Et toute image est à partir des sensations. Il y a des gens qui ont le toucher très développé. Il y a des gens qui ont la vision très développée. Il y a des gens qui ont le goût très développé. Il y a des gens qui ont l'ouïe très développée. C'est quand même très curieux, ça. Et ça influe sur l'intelligence. Ça, c'est sûr, je retiens certaines choses. Il y a des mémoires visuelles et il y a des mémoires auditives. Tant qu'on n'a pas vu le plan d'une ville, on n'y comprend rien du tout. Le jour où on a vu le plan d'une ville, ah, très très bien. Tandis que quand on vous a fait circuler pendant 3 heures dans la ville, par toutes les choses, ah, il y a des gens, c'est merveilleux, ils ont tout compris. Tant qu'on n'a pas vu le plan, il y a des gens de la vision. Alors, c'est une piste de recherche au point de vue critique. Comme ça n'a pas été développé du tout, on peut rester au niveau de la piste. Je vois l'intelligence liée donc aux cinq sens. Mon intelligence progresse dans son lien avec la vision, avec le toucher, avec l'ouïe, avec le goût. L'odorat. Alors, toute expérience a une note dominante. Il y a des expériences qui sont avant tout des expériences tactiles. C'est l'expérience entre ciel et noir. Il y a des expériences visuelles. Et ainsi de suite. Alors, forcément, chacune de ces choses va aboutir à une image, à une icône, à une image. Et dans l'image, il y aura plus l'aspect vision, ou toucher, ou oui, le goût, l'odorat. Et l'intelligence, par le fait même, va se servir de l'image de diverses manières, puisqu'elle a le frein. Et c'est pour ça qu'il y a nécessairement une certaine transformation de l'universel en fonction de la mise d'accent sur la vision, le toucher, l'odorat. Pour certains, c'est très net. Le genre se fonde sur la matière, provient avant tout du toucher. Le toucher est une connaissance générique. Fond, j'allais dire, le toucher va fonder une connaissance générique. La vision, au contraire, c'est la différence des yeux. Et par le fait, c'est propre, d'une certaine manière. Alors, une fois qu'on a les deux extrêmes, aller par les deux extrêmes. Les deux extrêmes de nos connaissances sensibles, c'est le toucher et la vision. Ça, c'est sûr. Celui qui n'est développé que le toucher du côté de la vision risque toujours un tout petit peu de partir dans un espèce d'idéalisme. Le toucher pour remettre le plancher des vaches. Ça, c'est sûr. Toucher pour remettre la réalité. Très simple. Vous comprenez très bien que les deux extrêmes de la connaissance, c'est le genre de l'éducation. C'est comme ça que je saisis la réalité. Je saisis ce qu'elle a de fondamental. Je saisis ce qu'elle a de qualitatif. J'aurais différentes visions. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? connaissance. Lui va me saisir quoi? Pas comment me saisir lui? Lui, c'est le sens du mouvement normal. Alors le sens du mouvement, c'est pas la différence spécifique, c'est pas le genre. Alors lui, est-ce que lui serait lié d'une certaine manière au propre? Ce que je croirais assez facilement. L'odorat, l'accident, et le goût, le propre, le goût de l'espèce. Tout ça qu'au fond, c'est la chose la plus, la moins déterminée. Autrement dit, il y a un enracinement qu'il faut chercher, qui n'est pas commun à saisir. Si on voulait le donner de façon plus complète, on comprendrait, et ça nous aiderait beaucoup à comprendre. Alors, je passe maintenant tout de suite, nous reviendrons à ça, vers quelque chose d'autre qui va nous aider encore à comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'abstraction. L'abstraction dite universelle et l'abstraction dite formelle. Je prends le langage de Saint-Thomas. Aristote ne dit pas ça. L'abstraction universelle me donne les cinq prédicats. Et l'abstraction formelle, c'est celle qui est une abstraction au carré. L'abstraction formelle, c'est le passage de blanc à blancheur. Blanc est déjà abstrait. Blanc a une signification universelle. Blancheur a une signification universelle au carré. De blanc, je passe à blancheur. Qu'est-ce que c'est que blancheur? Nous l'avons déjà vu. Ce par quoi le blanc est blanc. Cherchez dans un dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que blanc? Puis cherchez immédiatement après, qu'est-ce que c'est que blancheur? Alors de blancheur, on renverra à blanc. Et de blanc, on renverra à blancheur. Ça tourne en rond. Et c'est très vrai que ça tourne en rond. Puisque blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc, blancheur, c'est la qualité ultime de blanc. Ce par quoi le blanc est blanc. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose quand vous dites homme et humanité. Vous pouvez dire que Pierre est homme, mais vous ne pouvez pas dire que Pierre est l'humanité. Sauf Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit qu'il est l'humanité. Regardez-moi bien, je suis l'homme. L'homme au sens en soi, parfait. Donc il est l'humanité. Personne d'entre vous n'aurait le culot de dire ça. Regardez-moi bien, je suis l'humanité. Non, je suis une partie de l'homme, je ne suis pas l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité ? L'humanité, c'est ce par quoi l'homme est blanc. C'est pour ça qu'un journal qui s'appelle l'humanité, c'est très significatif. C'est très significatif. C'est ce par quoi l'homme est homme. Ça n'a l'air de rien, ces journaux, mais c'est très significatif. C'est donc l'homme, dans ce qu'il a de tout à fait lui-même, ce par quoi il est l'humanité. Lire. Un acte libre, liberté. La liberté. Vous avez abstrait libre pour avoir liberté. Liberté, c'est ce par quoi un acte libre est libre. Vous avez l'expérience de libre, un acte libre. Vous savez très bien ce que c'est qu'un acte libre. Mais vous n'avez aucune expérience de la liberté. statue de la liberté. Mais c'est la statue de la liberté, c'est pas la liberté. Personne d'entre nous, nous avons l'expérience de blancheur, de humanité, de liberté. Ça explique des quantités de choses. Alors vous voyez, quand on se met à spéculer sur la liberté, vous spéculez indéfiniment, vous ne saurez jamais ce que c'est. Quand vous spéculez indéfiniment sur l'humanité, vous pouvez spéculer indéfiniment, vous ne saurez jamais ce que c'est. Vous êtes obligé, si vous êtes dans une philosophie réaliste, donc pour saisir la réalité telle qu'elle est, vous êtes obligé de revenir de blancheur à blanc, d'humanité à homme, et de liberté à acte libre. Si on faisait ça, ce qu'on éviterait de bavardage philosophique. Vous ne pouvez pas spéculer sur la liberté. Vous spéculez sur des actes libres. Et vous voyez que la liberté de l'artiste est autre chose que la liberté de l'honnête homme. C'est une autre liberté. La liberté de celui qui fait quelque chose, c'est une autre liberté qu'au niveau moral. La liberté religieuse, c'est beaucoup plus tellement l'ancre. La liberté de l'esprit, la liberté de... Je sais que c'est des ateliers au plan religieux. Vous spéculez sur la liberté. Vous savez pas ce que c'est. Personne d'entre nous n'a l'expérience de ça. Alors ça, c'est très intéressant. C'est de voir que l'intelligence, non seulement abstrait le numéro 1, mais éprouve le besoin d'abstraire le numéro 2. Elle passe de blanc à blancheur, elle passe de l'homme. Je ne condamne pas ça. C'est très très bien. Mais attention, nous formalisons en faisant ça. Et nous quittons le réel. Alors quand je disais tout à l'heure que l'universel a un fondement dans la réalité, oui. Le genre a un fondement dans la réalité. Le genre, l'espèce, divise cet universel, celui-ci. Mais l'universel ici, c'est un autre universel. C'est le produit d'une abstraction formelle. La réalité est beaucoup plus loin. Quand je parle de liberté, ça a bien un fondement dans la réalité, puisque liberté renvoie à acte libre, et acte libre renvoie à une réalité que je peux expérimenter. Donc le fondement est beaucoup plus lointain. Et parce que le fondement est beaucoup plus lointain, je risque toujours de cérébraliser. La cérébralisation, elle vient à partir d'ici. Parce que je quitte rien. Dans un universel. Dans cet universel, il y a des zones différentes, multiples, et des modalités extrêmes. Et c'est en ce sens-là que je pourrais parler d'un universel univoque et d'un universel analogique. Vous voyez que la logique, c'est intéressant. Parce que ça me permet de voyager comme ça, dans des domaines extrêmement curieux. Le domaine univoque, genre, c'est un universel univoque. Quand je dis pierre est un animal, et quand je dis chien est un animal, animal a la même signification pour pierre et pour chien. Sauf quand vous dites espèce d'animal. Vous voyez ça, vous faites là quelque chose de tout à fait particulier. L'animal, c'est un genre, et vous dites espèce d'animal. On peut dire ça pour l'homme. Je connais l'espèce de l'animal. Je ne dire que ça pour l'homme. Et c'est très curieux cool, la espèce d'animal. Comme il dit ça, et c'est le désir de rejoindre dans le genre la différence des physiques. Espèce d'animal, quand vous dites espèce d'animal, vous voulez montrer qu'il est un animal tel qu'il sort jamais d'animal. Et donc que le rationnel est enfoui dans l'animal. espèce d'animal suprême, le juif.
N'est-ce pas ? C'est un suprême injuste, parce que vous enfouissez la différence spécifique dans le juif.
Mais ici, vous êtes en présence de cinq modalités d'universel qui sont univoques. Univoques, c'est-à-dire qui ont la même signification et le même mot. Tandis qu'au contraire, dès que je suis à un niveau de ce type différent d'universel, d'universel au carré, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux alors découvrir qu'il existe un universel analogique. Un universel analogique, c'est quoi ? C'est au sommet de ces abstractions formelles, toute science est au niveau d'une abstraction formelle. Toute. La base de la science, c'est l'universel univoque. Mais toute science implique un universel formel, donc un universel au carré. Prenez les axiomes mathématiques, c'est pas du tout un universel de premier type. Non, pas du tout, c'est celui-là. On abstrait et on a désir d'abstraire toujours plus. En philosophie, vous abstrayez les principes. Et à partir des principes, vous essayez d'abstraire les raisons des principes. Quel est le sommet de l'abstraction au point de vue philosophique ? Le sommet de l'abstraction, c'est ce qu'on appelle les saints transcendentaux. C'est curieux, on trouve cinq. Les saints transcendentaux, je vous les nomme, parce que ce serait intéressant de bien comprendre ces saints transcendentaux. Qui sont l'abstraction, l'universel dans ce qu'il a de plus universel. Et c'est un universel analogique. Vous avez ces cinq transcendentaux, je les nomme en latin, pour être proche de saint Thomas, res, unum, aliquid, bonum, verum. Maritain a essayé d'en ajouter un. Je crois que c'est une erreur. Il a ajouté Pulcrum. Est-ce que le pou est un transcendantal ? Grande question. Mais ici, je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse tout simplement à ce fait que nous sommes là en face d'un universel le plus éminent qui soit. Celui qui va le plus loin. Alors, res, c'est la réalité. Toute réalité est déterminée. C'est la détermination radicale de la réalité. Et c'est pour ça qu'on dira, l'essence. C'est-à-dire la détermination radicale de la réalité. Où nous, c'est l'un, c'est-à-dire ce qui est individu. Aliquid, c'est quelque chose qui est divisé des autres et qui en lui-même est individu. C'est l'un qui se divise des autres. Alors, allez. Le bonum, le bien, c'est ce qu'il y a à dire. Et le verum, c'est ce qui est source de la qualification de l'intelligence, par le coup de la vérité. Vous avez ces cinq transcendentaux. Saint Thomas dit, nous sommes en présence de rationes. Des raisons les plus profondes. Et nous retrouvons le fondement dans la réalité. Et saint Thomas dit que ces cinq transcendentaux se ramènent tous, sont convertibles avec la ratio entis, la raison d'être. La raison d'être, c'est le fondement dans la réalité de ces divers transcendentaux. Et ces divers transcendentaux sont donc des universaux, sont des universaux analogiques. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis des universaux analogiques ? Ça veut dire qu'il y a le même mot
avec des significations tout autres. Et cependant, ces significations tout autres impliquent quelque chose de commun. C'est ça le propre de l'universel analogique. L'universel analogique, c'est donc quelque chose qui est capable d'avoir le même nom avec des significations totalement différentes. Et pour, quand je dis, je vends, l'homme est bon, le cheval est bon, ce chien est bon, Dieu est bon. Le même mot attribué à homme, attribué à cheval, attribué à chien, attribué à Dieu, a des significations tout autres. Et la différence avec l'universel générique. Je ne peux pas attribuer un mal à Dieu. J'attribue bon à Dieu. J'attribue pas à Dieu. J'attribue reste à Dieu. Je dis que Dieu est une réalité singulière, une détermination. Il est vrai, il est bon. Ce sont donc des universaux qui ont une signification qui n'implique aucune imperfection et qui, chaque fois attribuée à telle ou telle réalité, ont une signification tout autre. Et cependant, dans ce tout autre, il y a toujours quelque chose de commun. Ce n'est pas équivoque. L'équivocité, c'est lorsque il y a un terme, le même, qui a des significations tout autres. L'œil de bœuf, vous savez, le fameux exemple qu'on donne toujours. L'œil de bœuf. Tandis que quand vous le voyez, elle est mal, c'est équivoque. Donc, ça a c'est le même mot qui a des significations totalement différentes sans avoir quelque chose en commun. Donc, vous êtes dans la pure diversité. Tandis que dans l'analogie, on n'est jamais dans la pure diversité. Il y a une diversité, mais il y a quelque chose. C'est pour ça que dans l'universel analogique, vous pouvez saisir l'ordre qui commande cette diversité. Il y a toujours un premier. Toujours. Parce qu'il y a un ordre. Dès qu'il y a un ordre, il y a un premier. Tandis que dans l'équivocité, pas du tout. Alors, il faut se demander si dans l'équivocité, il n'y a pas très radicalement quelque chose de commun. Ordinairement, dans un terme équivoque, il y a toujours quelque chose. Et alors, c'est plus une analogie propre, c'est une analogie métaphorique. Je crois que dans tout terme équivoque, il y a toujours une analogie métaphorique. Il y a un petit quelque chose comme. Mais de l'ordre de la propriété, pas de l'ordre essentiel. C'est de l'ordre de la propriété. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer cela. C'est bien évident que quand vous voyez l'œil de bœuf pour une petite lucarne, et que vous regardez l'œil de bœuf, il y a un petit quelque chose commun. Et c'est bien évident qu'on a attribué ça de cette manière-là. Et ainsi de suite, tous les termes d'équivoque impliquent fondamentalement une analogie métaphorique. C'est-à-dire une analogie qui repose sur une certaine propriété. Une certaine propriété. Quelque chose d'accidentel. Il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui peut être purement accidentel, mais qui permet de dire ça. Oui. Alors, voyez, ce qui serait intéressant, c'est de voir le rapport de ces cinq notions analogiques avec les cinq prédicats. Et par là, vous comprendriez mieux comment nous sommes en présence d'une intelligence qui est conditionnée par les sens. Qui n'est pas déterminée par les sens, mais qui est conditionnée par les sens. Et le conditionnement de mon intelligence se retrouve dans les deux modalités universelles, l'aspect fondamental et l'aspect ultime. L'aspect fondamental de ma vie intellectuelle, c'est les cinq prédicats. Et l'aspect ultime de ma connaissance intellectuelle, c'est les cinq transcendantaux. C'est très étonnant. Là, il y a matière à réflexion. Parce qu'on n'aura pas d'intercoup, parce que je suis obligé de m'arrêter un petit peu avant aujourd'hui. S'il y a des questions, posez-les tout de suite. Avant d'aller plus loin.
Tant pis pour les groupes qui font de la fumée, mais ne représentent pas grand-chose. Je prierai le Seigneur au saint sacrifice de la messe. Je ne savais plus où j'en étais, moi. Mais ça ne se dit plus. Je prierai le Seigneur au saint sacrifice de la messe avec vous pour qu'il vous bénisse par une bonne santé et une bonne année de ministère sacerdotal. Bien fraternellement, Robert Segui. Oh, ben ça, peu importe. Moi, cette lettre m'a illuminé ma journée. Et je pensais qu'elle vous réconforterait un petit peu aussi. Pourquoi je vous l'ai apportée tranquillement. Voilà. Pas trop fatigué, Hugues ? Au moins, tu auras un bon sommeil, après je t'aurai bercé.